On va continuer sur l'intercession ce soir.
Je
rappelle que nous avons étudié un certain nombre de prières. Et nous sommes dans la vie de l'esprit. Et là où on doit apprendre à se laisser porter par l'esprit. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous pouvons motiver notre foi. Nous pouvons prier la prière de la foi. Et ça, c'est indispensable de grandir dans la foi. Ça, c'est le travail de la parole en nous. Le travail de la parole sur nous. Cette parole qui vient et que tu utilises, que tu proclames, que tu crois envers et contre tout. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a des prières dans l'esprit. Il y a une vie de l'esprit.
Et
c'est ce que nous sommes en train d'étudier depuis des semaines maintenant. Et ça, c'est pour vous aider à comprendre que tout ça, c'est complémentaire. Si
ce
n'est pas complémentaire dans votre vie, c'est que vous avez un problème. Vous
n'avez
pas d'équilibre. Donc, je vous avais montré dans Ephésiens 6, 18 qu'il y a différents types de prières. Et qu'il y a des prières dans l'esprit. Et nous avons vu qu'il y a trois types de prières dans l'esprit. La première, c'est la prière en langue. Et la prière en langue vous aide à entrer dans l'esprit. Elle vous aide à être sensible à votre nature spirituelle. Là où Dieu habite. Dieu n'habite pas dans votre tête, dans vos pensées, dans vos sentiments. Mais Dieu habite dans votre être intérieur, votre esprit, votre nature
spirituelle.
Et ce Dieu qui habite en vous, il veut que vous fassiez la différence entre ce qui vient de votre chair, de votre personnalité.
Et
ce qu'il veut mettre dans votre esprit. Et pour ça, ça commence par la prière en langue. C'est pour ça que je vous ai montré quand vous priez. Passez un temps de prière, la première chose que vous devez faire, prier en langue. Vous vous connectez. Vous sensibilisez votre nature spirituelle. Ensuite, nous avons vu une chose. Il y a un type de prière qui s'appelle la supplication. Et c'est vrai que c'est un peu trompeur parce qu'on pense que supplication, ça vient de supplier en français, ça veut dire être comme un mendiant et dire oh Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais nous avons étudié que la supplication n'est pas du tout ça. La supplication, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit. Quand nous sommes devant des murs, que nous essayons de motiver notre foi, mais que nous sentons qu'il y a quelque chose de plus dont nous avons besoin.
Et
alors, tu cherches Dieu. Tu
enseignes,
Seigneur, comment dois-je prier par rapport à cette situation? Et à force de chercher Dieu, tu commences à te fermer au monde naturel. Et tu ouvres tellement ta nature spirituelle qu'au bout d'un moment, Dieu commence à mettre des choses dans ta nature. Ça s'appelle l'inspiration. L'inspiration, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui souffle en toi des choses. Tu ressens une direction pour prier. Ou peut-être le Seigneur même va parler dans ton esprit. Et te dire, non, il faut que tu pries comme ça par rapport à cette situation. Et tu suis la direction de Dieu. Tu pries comme ça. Et tu vois le résultat. C'est simple. Mais il faut le savoir. C'est pour ça que nous avons fait un certain temps sur la direction divine. Et je vous ai expliqué comment être dirigé par le Saint-Esprit. Maintenant, dans votre vie de prière, il pourra se passer quelque chose qui arrive assez exceptionnellement, mais ça arrivera. Vous rentrerez encore dans une autre dimension de la prière qui s'appelle l'intercession.
C'est ce
que nous sommes en train d'étudier. Nous avons commencé la semaine dernière et que nous allons terminer aujourd'hui. Parce que c'est une prière qui est souvent très mal comprise et qui a créé beaucoup de confusion. La La dernière fois, nous avions vu d'abord que l'intercession, c'est quoi? C'est le fait de plaider la cause de quelqu'un qui est sous un jugement, qui mérite ce jugement, afin que ce jugement soit retardé ou même ôté. Ça, c'est le concept de l'intercession. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc c'est prier pour quelqu'un ou un groupe de personnes qui est ou qui sont sous un jugement, qui mérite ce jugement, pour que ce jugement soit retardé ou complètement enlevé. Donc nous sommes en train de voir comment ça fonctionne. D'abord, on a regardé le besoin des hommes. On avait vu celui qui était dans la piscine de Bethesda, enfin proche de la piscine de Bethesda, ce malade. Et en fait, on s'est aperçu que cet homme disait, moi j'ai personne pour me mettre dans l'eau. Et quand je commence à ramper, parce qu'il ne rampait, il faisait que de ramper par terre, il y a quelqu'un d'autre qui va avant moi. Donc cet homme avait besoin de quoi? Parce qu'il était handicapé. Quelqu'un qui est sous un jugement, c'est quelqu'un qui est handicapé, qui ne peut pas s'aider lui-même. Il a besoin de quelqu'un. Job aura le même cri. Job dira, mais qui est-ce qui peut jouer l'arbitre entre Dieu et moi?
Arbitre.
Qui peut faire ça? Donc ça, c'était la recherche de l'homme. Le cœur de Dieu, c'était quoi? Le cœur de Dieu voyait la misère de l'homme. L'homme dans son péché. L'homme sous le jugement. Et Dieu dit à plusieurs reprises dans sa parole, je cherche un homme. Je cherche quelqu'un qui peut se tenir à la brèche. Mais je ne trouve personne. Mais je ne trouve personne. Ça, c'était le cri de Dieu.
Et
évidemment, nous avons vu que un jour, Dieu va répondre à ce cri. Dans Ésaïe, Dieu dit, qui ira pour nous? Et Dieu le Fils répond, me voici,
envoie-moi.
Et c'est là où Dieu le Fils va se faire homme. Il va mourir. Il va se donner comme sacrifice. Et la Bible nous dit clairement, nous l'avons vu, qu'aujourd'hui, à la droite du Père, il y a un homme, Jésus-Christ, qui intercède pour les hommes. Il y a un homme à la droite de Dieu qui plaide la cause des hommes. Et ça, c'est le ministère actuel et céleste de
Christ.
Et je vous ai montré que tout pécheur, et nous sommes passés par là aussi, tout pécheur qui vient avec un cœur repentant et au bénéfice de l'intercession de Jésus, le jour où vous êtes venu pour la toute première fois à Christ, pécheur que nous étions, sous le jugement de Dieu, avec un cœur repentant, ayant cette conviction de péché, nous sommes venus devant Dieu, nous étions coupables, nous méritions la mort. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu alors que tu demandais grâce, alors que tu demandais pardon. Jésus a pris ta requête. Il a été auprès du Père et il a intercédé en ta faveur. Et Jésus gagne toujours cette intercession parce qu'il a un argument. Il montre au Père les traces, les clous
dans ses mains,
dans ses pieds, trace de lance de son côté, et le sang qui est là comme un témoignage, le sang qui est là comme un témoignage dans le ciel. Et il dit au Père, j'ai payé pour lui, gracieux.
Et
Dieu de son ciel
prend
notre dossier,
il
l'arrache,
il
l'efface, il le détruit
et
il déclare
Steve,
toi qui es sur la terre,
toi qui
viens de crier à moi,
maintenant
tu es acquitté.
Et
à ce moment-là, Dieu prouve cela, justifie cela en venant faire de Steve l'habitation, son habitation. C'est la preuve. La preuve
qu'il y a
eu quelque chose qui s'est passé au ciel.
Ça,
c'est l'intercession de Jésus.
Donc,
chaque pécheur qui vient avec son cœur repentant, qui demande grâce, Jésus fait cela. Nous sommes tous passés par là.
Si
nous sommes nés de nouveau, si nous sommes nés de nouveau, c'est exactement
ce par là.
Maintenant, la question
est,
y a-t-il finalement des êtres humains qui intercède pour d'autres êtres humains? Bien sûr, la réponse est oui. Mais là, on va voir justement comment ça se passe. Nous avions étudié
Abraham.
Abraham, l'ami de Dieu.
Abraham
qui vit une expérience extraordinaire, il voit le Seigneur.
Abraham, il y a
trois personnes qui viennent le voir.
Il y avait
Dieu le Fils.
Et
il y avait deux anges. Et Abraham savait que c'était des gens très spéciaux.
Abraham
à ce moment-là a une vision ouverte.
Il
voit le naturel et le surnaturel.
Et
le Seigneur lui dit tout un tas de promesses.
Abraham
est aux anges. Ce qu'il attendait depuis 20 et quelques
années.
Dieu lui dit l'année prochaine.
Wow.
Abraham était plein de joie.
Extraordinaire.
Vous avez attendu quelque chose pendant plus de 20
ans.
Et d'un seul coup, le Seigneur vous apparaît.
Et
dit, l'année prochaine,
c'est fait. Là, vous
tombez par terre.
Extraordinaire.
Et Dieu commence à partir.
Et il
lui dit,
cacherai-je
à Abraham
ce que je vais faire?
Et là, nous avons commencé à voir quelque chose
d'important.
L'intercesseur,
ce n'est
pas un criard de prière,
quelqu'un
qui va hurler pendant des heures. L'intercesseur
est
un intime. C'est d'abord quelqu'un qui est proche de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas son cœur avec des gens qui ne lui sont pas proches.
Vous pouvez être
chrétien et de nouveau à vivre votre petite vie chrétienne tranquille.
Vous êtes Christ, vous
allez au ciel. Mais Dieu ne partagera pas son intimité avec
vous.
Sauf si vous creusez la relation avec lui. Parce que l'intercession fait partie des secrets de Dieu.
Et
Dieu révèle ses secrets seulement aux gens qui sont disponibles et qui sont proches de lui. Si tu creuses ta relation avec Dieu, tu vas faire de plus en plus d'expériences dans l'esprit. Mais tu ne feras pas beaucoup d'expériences dans l'esprit si bon, tu as pris le salut, ça t'intéresse,
et
que tu vis ta petite vie chrétienne tranquille
sans
chercher une profonde intimité avec
Dieu.
Dieu ne se révélera pas à toi dans le domaine de ses secrets,
parce
que Dieu est un Dieu qui cherche l'amitié, l'amour désintéressé.
Si
ton cœur c'est simplement Seigneur, tu vois moi, ne pas son intimité avec
lui.
Il
ne
te donnera pas des choses qu'il a dans le cœur. Donc Abraham,
alors
qu'il venait d'entendre toutes ces belles promesses, Dieu lui dit, je vais détruire les villes Sodome et
Gomorrhe.
Et Abraham a commencé à plaider la cause. De qui? De Lot et de sa famille.
Et
il a appelé au cœur et à la passion de Dieu. Dieu est intervenu, les deux anges sont descendus à Sodome et Gomorrhe. Ça a été le résultat de l'intercession.
kubera gusengerwa gusa na Aburahamu.
Ils ont prévenu Lot et sa femme et sa famille.
Maze baragabisha Loti n'umugore we n'umuryango wiwe.
Nous avons étudié pendant je crois deux sermons le naufrage de la vie de Lot.
Ndibaza mu butumwa bibiri umunsi umwe igihe kimwe twarize ubuzima bwa Lot n'ingene yahejeje
nabi. Vous savez que Lot s'en est à peine tiré.
Turazi ko Lot akibivamo
gusa. Il a perdu sa femme, il a perdu tous ses biens.
Yahatswe gupfiramo yatakaje umugore w'ico gihe atakaza n'ibyo yaratunze
byose. La raison pour laquelle il était descendu à Sodome et Gomorrhe.
Kandi gituma yari cari camujanye Sodome na Gomorrhe.
C'est parce qu'il était riche.
Nuko yari umutunzi.
Il voulait encore plus s'enrichir.
Akaba agomba gutunga kandi birenze.
Et il a tout perdu parce qu'il avait une mauvaise motivation de vie.
Maze atakaza byose kuko yari afise intumbero itari nziza.
Ensuite nous avons Moïse.
Hama turabona Mose.
Et Moïse va nous apprendre aussi d'autres choses.
Mose nawe aratwigisha ibintu bitari bike.
Moïse est là dans la montagne, il passe un moment extraordinaire, fabuleux avec Dieu.
Mose yiberenga hari ku musozi ariko aba mu bihe bidasanzwe ari kumwe n'Imana.
Il est dans la présence de Dieu.
Yibere mu bwiza nyene bufatika
bw'Imana. Des jours et des
amaze iminsi n'iminsi n'iminsi.
Dieu lui parle comme je peux parler à Steve.
Imana ikivugana nawe nkaho mugenzi avugana n'umuntu.
Dieu lui donne vision sur vision sur vision.
Imana imuha kwerekwa inyuma y'ukundi kwerekwa
inyuma y'ukundi. Il vit un jeûne surnaturel.
Abamu icyo gihe aramara iminsi 40 atajya mugaba gumabaho.
Mais en bas.
Ariko hariya hasi
mu
mwihanga batangura kwiranda batangura kugarariza batangura gukora ibigirwamana maze uwo mwanya urubanza rw'Imana rurabamanukira hama Mose atangura kubasengera arabasengera gushika naho avuga ati Imana nimba ugomba kubakura ku isi bajya abantu nanje nkuramwo njane nabo.
Et on a vu une deuxième chose dans le concept de l'intercession. La première, c'était l'intimité avec Dieu. La deuxième, c'est l'identification. Ressentir. Ressentir le cœur de compassion de Dieu. Pour ceux qui sont sous un jugement. Et ça, c'est quelque chose qui est surnaturel. Moïse aimait ce peuple. Ce peuple qui gaffait constamment. Mais quand Dieu voulait le juger, ce peuple. Plusieurs fois, ça s'est passé. Moïse s'est toujours tenu. Et il a toujours défendu ces gens-là. Pourtant, ils lui ont fait tous les coups possibles. Et quand il plaidait la cause, il s'identifiait.
Il dit, non,
Seigneur, si tu veux les éradiquer, je vais aussi dans le dos. Parce que Dieu lui avait dit, je vais les effacer, et je ferai de toi.
Oh,
Moïse aurait dû dire, oh oui, formidable. Je suis Abraham numéro
2.
On va refaire l'histoire avec moi. Non, pas du tout. Ça, c'est pas le cœur de l'intercesseur. Ça, c'est le cœur de quelqu'un dont les sentiments ne sont pas purs. Qui
ne
sont pas prêts à se tenir pour les autres. Vous savez, il y a des domaines dans la prière parfois qui nous surprennent. Quand le Saint-Esprit vient sur vous et que vous êtes en train de prier des fois pour des situations ou pour des gens, le Saint-Esprit des fois vous transmet ses sentiments. Moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Et franchement, on se retrouve avec comme si on était en agonie. On va parler de cela dans quelques minutes. Alors, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a une intercession? Parce qu'on pourrait dire, oui, effectivement, bon, bah, Jésus n'était pas là, donc Dieu a choisi quelques hommes, et nous avons des exemples dans l'Ancien Testament. Nous savons que Jésus est le grand intercesseur. Ok. Regardons dans Romains 8, verset 26. Romains 8, 26 va nous donner une réponse par rapport à cette question. La question est, y a-t-il des intercesseurs aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Comment ça se passe? Et c'est pour qui? Envers qui? Romains 8. Il dit de même aussi, verset 26, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède, sous-entendu au travers de nous, par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, Car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Niko namwe mu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga ariko muwe mubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa ariko isese imitima irazi ibyo muwe muyumvira.
Alors ici ces deux versets peuvent nous interpeller particulièrement.
Ibirongo ibiri duheje gusoma ishobora kudukora ko cyane.
Donc nous apprenons que l'intercession se fait par l'esprit de Dieu.
Tubonye uko gusengera abandi bikogwa na muwe w'Imana.
À l'initiative de Dieu.
Arimana ibirungitse ibitanguje.
C'est ça qu'on va découvrir d'abord.
Niki tugomba kuraba ko muri kano kano.
Mais aussi ce verset va nous montrer quelque chose.
Ariko kandi umurongo hari kindi kintu twereka.
Qui peut un peu nous surprendre ou nous faire peur.
Kisa kudutangaza cyangwa kudutera ubwoba kumbure.
Puisque la Bible là nous parle d'intercession vis-à-vis des saints.
Kuko ngaha bibiri twereka go gusengera abera.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ibi bigomba gusobanura iki?
Une intercession envers des saints. Avec la définition que nous avons de l'intercession, ça veut dire qu'on va plaider la cause de gens qui sont supposés être des saints, c'est-à-dire des chrétiens nés de nouveau, et qui sont sous un jugement.
Alors
là, pasteur, je ne suis plus là. Parce que tout à l'heure, on a bien vu que quand on a donné notre vie à Jésus, on a été acquitté. C'est vrai. Mais nous allons découvrir qu'il y a des chrétiens qui, pour différentes raisons, retournent en arrière.
Ils
se mettent sous un jugement. On va découvrir ça et je vais vous le montrer dans l'écriture. Mais d'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'intercession, la prière d'intercession, n'est pas quelque chose que des hommes peuvent initier. C'est un abus de langage. Et d'autres personnes, c'est un abus de loi spirituelle qui ne mène à rien sinon à des trucs bizarres. La vraie prière d'intercession est initiée par le Saint-Esprit. Tu es en train de prier et d'un seul coup, il y a comme quelque chose qui te tombe dessus. Et tu as un immense fardeau. Rappelez-vous, c'est plaider la cause.
C'est
pas un fardeau que tu peux te mettre toi-même. L'intercession n'est pas initiée par un homme qui dit, voilà, finalement, je vois, oh, il y a un problème là, il y a des besoins ici, je vais prier et intercéder pour
ça.
C'est pas ça l'intercession. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent oui, on va intercéder pour notre église. Ça n'a aucun sens, sauf si ton église est en train d'éclater. Je vais intercéder pour le pasteur. Ben, le pasteur, il a des problèmes alors. Je vais intercéder pour telle ou telle personne. Ça, c'est un abus de langage.
Souvent.
Ou alors, malheureusement, parfois, je vous dis, c'est des gens qui essayent de jouer les super spirituels comme s'ils avaient un ministère d'intercession et souvent couplé avec le combat spirituel. Ça, c'est des gens qui souvent essayent de se mettre hors classe, vous savez, comme s'ils étaient super spirituels dans les sphères secrètes de Dieu.
Et
ça, c'est des gros rigolos. Des grands farceurs. On ne monte pas ce genre. Il y a des gens qui montent des ministères comme ça. C'est n'importe quoi. Non, la vraie intercession. Tu es là. Et tu es tranquille. Soit tu es dans tes affaires de tous les jours. Soit tu commences à prier. Et d'un seul coup, la présence de Dieu vient. Il met quelque chose dans ton cœur. La Bible nous parle de soupir inexprimable. Ça veut dire que d'un seul coup, tu es enveloppé par sa présence. Et la puissance de Dieu te visite. Et tu te sens complètement envahi par des sentiments divins. Dieu est en train de te transmettre ses sentiments. Croyez-moi, quand Dieu nous transmet ses sentiments, vous avez l'impression de ne plus être la même personne. Moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois.
Je
vous assure, ça fait vraiment bizarre.
D'un
seul coup, vous ressentez les choses comme Dieu les ressent.
Vous
voyez comme Dieu voit les
choses.
Et là, vous rentrez dans un domaine de la prière
qui
n'est pas naturel,
mais
qui est tellement surnaturel que vous êtes transporté. Vous avez un tel fardeau que ça sort de vous.
Il
y a comme des pressions sur vous,
gigantesques,
pour que vous priez. Et souvent, ça se passe en langue. Votre langage en langue change.
Ou
alors Dieu met un fardeau terrible et vous donne une inspiration par rapport à un verset biblique. Ça m'est arrivé ici même. Je me souviens le 26 novembre de l'année dernière. C'était un jeudi soir. Certains vous étiez ici. Et c'était vraiment une prière d'intercession. Où Dieu me donnait ce verset à prier. Où il est dit, je me suis fait connaître par ceux qui ne me cherchaient pas. Et ça, c'était vraiment un verset que le Seigneur m'a donné à ce moment-là. Et c'était comme une transmission des sentiments de Dieu par rapport aux
pertuis.
Il y a d'autres occasions personnellement où ça m'est arrivé. Où Dieu me mettait une compassion particulière dans une situation particulière. Cette urgence qui vient. Vous êtes porté dans la prière d'une façon exceptionnelle. Ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il y a ce fardeau qui est là. Et au bout d'un moment, vous sentez qu'il y a une victoire dans le monde de l'esprit. Dans ce que vous avez prié. Parfois, je vous dis, ça se fait en langue. Et là, vous êtes en train d'intercéder pour quelqu'un. Quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Souvent.
Des fois, Dieu vous donne, par contre, des noms particuliers. Ou un groupe ciblé particulier. Et vous avez ce fardeau extraordinaire. Inexplicable, surnaturel. Vous ne pouvez pas produire ça. Les gens qui produisent, essayent de produire ces choses. Ça ne porte strictement aucun résultat. Parce que ce n'est pas l'intercession. Mais c'est essayer de prendre un fardeau et ou un besoin, peut-être réel. Vous n'avez jamais essayé de prier pour quelqu'un
où
on vous a dit, tiens, priez pour telle personne. Et puis finalement, vous n'y avez même pas pensé pendant toute la semaine. Et puis la fois d'après, on vous dit, vous faites la prière pour cette personne. J'ai oublié. Pas si vous êtes honnête, hein. Pas si vous faites à la burundaise. Ah, j'étais très occupé cette semaine, je n'ai pas beaucoup prié. Non, mais vous avez oublié tout simplement. Parce qu'il n'y avait rien de spécial. Qui touchait votre cœur. Et vous savez, parfois notre cœur devient insensible. Je vous ai dit, pour savoir où vous en êtes spirituellement, vous prenez la jauge suivante. Très simple. Regarde le nombre de prières qui sont orientées vers toi. Et regarde le nombre de prières que tu orientes vers les autres. Il y a des chrétiens. Ils sont avec une balance, la balance, prière pour moi, prière pour les autres. Il y a une tonne du côté pour moi. Et pour les autres, je pense qu'ils font un microscope pour savoir s'ils ont vraiment prié. Il y a depuis une année pour les autres. Examinez vos prières et vous saurez le niveau dans lequel vous êtes. Si vous voulez vraiment aller plus profondément dans la prière, il va falloir que vous commenciez à prier pour les autres. Petit à petit, Dieu va sensibiliser votre esprit. Certains parmi vous, vous avez quelque chose de spécial dans la prière. Que Dieu vous a donné pour prier pour les autres. Je ne dis pas une grâce spéciale, mais c'est quelque chose que Dieu vous avait mis à cœur. Mais vous l'avez perdu. Parce que vous vous orientez vers vous. Orientez-vous vers les autres. Arrêtez toujours de penser à vous. Vous faites ça, c'est la recette du chrétien malheureux. Le chrétien malheureux, il est toujours sur sa propre trinité. Je, moi et moi-même. Il est toujours sur ce canal-là, sur cette chaîne-là. Et il se plaint pourquoi il est malheureux. Et plus il se plaint, plus il est malheureux. Je donne la recette pour être malheureux. Elle est très simple, la recette des chrétiens malheureux. Donc quand vous êtes dans cette prière d'intercession, ce fardeau est là, vous êtes sous les pressions du Saint-Esprit. Parce que Dieu cherche des canaux par lesquels il
peut passer.
Il y a un moment, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans le domaine de l'esprit. Vous
ne
pouvez rien expliquer, mais il y a une chose qui est claire, c'est au plus profond de vous-même, vous savez que c'est fait. Donc l'intercession va être simplement d'être un canal du Saint-Esprit qui permettra ni plus ni moins au cœur de Dieu d'être prié sur la terre par rapport à une situation particulière, désespéré pour les
hommes.
C'est surnaturel. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux provoquer.
Ce
n'est pas parce que tu vas passer 3 jours de jeûne et prière que tu vas entrer dans l'intercession.
Non.
Si tu veux passer 3 jours de jeûne et prière, cherche Dieu. Il te dirigera. Peut-être que tu entreras dans l'intercession. Mais il n'y a aucune promesse qui le dit. Dieu simplement cherche des canaux disponibles. Des gens qui veulent obéir. Et croyez-moi, dans ces moments-là, il y a quelque chose de spécial qui se passe.
Il faut
que vous sachiez ce que vous voyez sur cette terre comme action divine. C'est d'abord quelque chose qui s'est passé, qui est né dans l'esprit, qui a été enfanté dans l'esprit. C'est vrai pour la prière de la foi. C'est vrai pour la supplication. Et c'est encore plus vrai et plus fracassant, plus étonnant, avec les résultats les plus étonnants avec l'intercession. C'est une prière qui amène des résultats terribles. Alors, pour qui est-ce que cette prière est faite? Numéro 1, envers les inconvertis. Dieu vous dirigera et mettra un fardeau et une prière d'intercession en vous pour les inconvertis. Romains chapitre 1, versets
18 et 19.
La Bible nous dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a manifesté. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages.
Uburake bw'Imana ku murongo wa 18 bwarahishuwe buvuye mu ijuru ubwo irakira ukutayubaha kw'abantu kose no kugabitanya banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo, kuko ivyo umuntu yomenya vy'Imana vyerekanwa muri bo Imana ariyo yabiberetse, kuko bitaboneka vyayo nivyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntibagire ico bireguza.
Je vais vous dire une chose.
Reka mbabwire iki kintu.
Il y a certaines personnes qui sont amenées au salut simplement parce que vous priez pour eux. Mais il y en a d'autres. Elles sont amenées au salut seulement par l'intercession. Pourquoi? Comment? Si Dieu est Kabisa.
Je ne sais pas vraiment.
On ne sait pas ces choses-là. Dieu ne nous demande pas de comprendre tout ce qui se passe dans l'esprit. Dieu nous demande de nous soumettre au Saint-Esprit. Et d'obéir.
Ce
n'est pas à toi de dire: Dieu, ça doit être fait comme ci ou comme ça. La seule chose que tu peux faire, c'est ouvrir ton cœur
et
dire: Seigneur, moi je veux être un instrument de salut pour les autres. Prie pour les âmes perdues. Et il y a des moments où Dieu t'amènera dans l'intercession. Si vraiment tu as à cœur les âmes perdues, commence à prier, à passer du temps pour les âmes perdues. Parce que Dieu aime les âmes perdues. Il veut les sauver. Il veut les toucher. Commence à prier pour les âmes perdues.
Ouais,
tu peux dire, ouais, mais moi, ça fait déjà 10 ans que je prie pour la même personne et il n'est toujours pas sauvé.
Et bien,
continue. Et prie aussi pour d'autres. Et apprends à réellement prier en étant dirigé par le Saint-Esprit.
Et
plus tu entreras dans l'intimité avec Dieu, plus Dieu pourra t'amener dans ce genre de prière. Il y a une dame qui s'appelle Suzette Hatting,
Hatting,
qui était une des grandes clés des réussites des croisades de Reinhard Bonnke. Souvent, on voit l'évangéliste exercer son ministère. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a des choses qui sont remportées d'abord dans l'esprit. Et je me souviens de ces conférences qu'on avait avec Reinhard Bonnke en Europe il y a bien longtemps maintenant. Et il y avait cette sœur qui était très simple. C'était une Sud-Africaine. Et cette sœur avait vraiment le fardeau pour les âmes perdues.
Et quand Bonnke
faisait soit des conférences, soit des croisades d'évangélisation, elle avait une équipe. Ils étaient puissants, dirigés par l'esprit de façon incroyable. Pendant les moments des réunions, Dieu lui donnait particulièrement des directions pour prier pour les gens. Et très souvent, ils entraient dans l'intercession. C'est là où ils voyaient la puissance de Dieu, frères et sœurs. Mais pourquoi il y a des gens qui sont sauvés par de simples prières? D'autres qui sont sauvés parce qu'on rentre dans l'intercession? J'en sais rien. Mais il y a une chose qui est sûre, j'ai remarqué. Les gens qui sont sauvés comme résultat des prières d'intercession, souvent ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des gens qui sont prêts de mourir. Il y a des dangers terribles dessus. Satan veut leur faire des coups pour leur ôter la vie. Et Dieu a vu qu'il y avait des gens qui priaient pour ces gens-là. Et qu'ils ont un cœur pour se donner à lui. Et à ce moment-là, quelqu'un rentre dans l'intercession. Mais ces gens évitent des tragédies. Des meurtres. Des accidents de voiture. Des catastrophes terribles. Ça, c'est souvent ce que j'ai remarqué. Maintenant, la deuxième question que nous devons nous poser. L'intercession, nous l'avons vu dans Romains
8.
Il est parlé. On va relire ce verset parce que vraiment, il faut le revoir. Il est dit au verset 27. On peut relire, on va lire à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, de nos manquements, de nos manques de connaissances. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles, nos pauvres petits chrétiens, pauvres pépépépé, comme disait Castanou, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Puis, Paul dira, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu, tu liras juste cette partie de verset s'il te plaît, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. »
ngo niko namwemu adufasha mu ntege nke zacu 26 ngaho kuko tutazi uko dukwiye gusenga ariko muhemu bwiwe aradusengera anihi miniho itovuga 27 ariko isese imitima irazi ibyo muhemu yiyumvira.
Il intercède, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Ngo
juste à la fin du verset 27
ngo kuko imana igomba ariko muhemu asengera abera.
En faveur des saints. Rappelez-vous le concept de l'intercession. C'est prier pour qu'un jugement soit ôté. Donc la question, c'est savoir, y aurait-il certains chrétiens qui seraient sous certains jugements?
Mais
la Bible va nous dire oui. Oui. Dis à ton voisin, c'est pas toi. 1 Corinthiens chapitre
5.
Tu vois, Steve, ils sont tellement charnels, il faut les rassurer avant. Là, on va voir une conception de quelque chose de particulier. Vous savez, les gens reçoivent le Seigneur, mais il y a aussi des gens qui, après avoir reçu Jésus, se comportent d'une manière indigne du Seigneur. Ils rétrogradent ou se mettent dans le péché ouvertement. Et nous allons voir ici les portes que cela peut ouvrir. Je dis bien que cela peut ouvrir. Il y a du conditionnel dans tout ça. Parce que ces portes-là, il n'y a pas de règles très spécifiques. Mais la Bible nous donne certaines choses, plusieurs versets qui nous montrent qu'il y a certains chrétiens qui courent certains dangers. Et ce sont des chrétiens qui, ni plus ni moins, sont revenus dans des habitudes de péché. Et il y a certains chrétiens qui ouvrent des portes au jugement. Il faut que vous compreniez une chose. Quand vous êtes sauvés, que vous obéissez à Dieu avec un bon cœur. Je
ne
dis pas qu'on obéit partout et parfaitement à Dieu. Personne n'obéit parfaitement à Dieu. Mais dans les lignes de votre vie chrétienne, eh bien, il y a quelque chose sur vous
qui
s'appelle la protection surnaturelle. Que vous le réalisiez ou non, le fait d'obéir au Seigneur, par exemple, le fait d'être dans une vision d'église locale, ça met une protection sur vous. Le fait de marcher avec Dieu dans la sainteté, ça met une protection sur vous. Le fait d'obéir à la parole de Dieu, ça nous protège. Tu vis dans une sphère de protection. S'il y a des choses qui te menacent et que tu es sensible au Saint-Esprit, l'ennemi s'écartera. Bien sûr, si tu fais des erreurs, certaines erreurs qui sont tragiques, comme certaines personnes qui n'écoutent pas leur nature spirituelle ou qui marchent avec, qui fonctionnent avec leur tête plutôt qu'avec leur esprit, là, des fois, ils se mettent dans des dangers. Ou ils vont dans des dangers au nom de Jésus et ils se plantent complètement parce que ce n'était pas au nom de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, nous donne l'exemple de quelqu'un qui vivait dans le péché. Et cette personne a tiré des jugements sur
lui.
Nous verrons le même principe dans 1 Corinthiens 11. Alors, qu'est-ce que va être ces jugements? Quand la protection de Dieu est écartée de nous, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui meurent prématurément, d'autres qui tombent malades de choses dans lesquelles ils devraient être protégés, d'autres qui se retrouvent d'un seul coup dans des accidents auxquels rien n'était prévu. Et
ce
n'était pas, entre guillemets, directement des attaques sataniques parce que les gens étaient en train de faire des œuvres divines. Parce qu'il faut dissocier plusieurs choses dans la vie. Si nous arrive certaines tragédies, il y a des raisons pour cela. Des fois, vous pouvez vivre des tragédies parce que le diable essaye de vous faire chuter parce que vous êtes en train de faire les plans de Dieu dans vos vies. Donc, il s'oppose à vous et il essaye de prendre votre vie. Jésus et Moïse ont failli mourir, entre guillemets, en tant que bébé. Ils ont été protégés surnaturellement de par leur destinée. Il y a des protections. Lisez la Bible, vous verrez la protection divine. Maintenant, il y a des gens aussi qui vivent des tragédies par ignorance. Ils font n'importe quoi avec leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas les règles spirituelles du royaume de Dieu. Et évidemment, ils se retrouvent dans des problèmes. Et puis, eh bien, bien, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas de connaissance de la parole.
Et
les circonstances les submergent et les écrasent.
Mais
il y a aussi des gens qui, eux,
Bobo,
vivent des tragédies
usanga baba mu ngorane,
parce que
kubera,
ils sont dans le péché.
Bari mu cyaha.
Ils vivent dans le péché.
Baba mu cyaha.
Et la protection de Dieu s'est complètement écartée.
Maze kurindwa n'Imana kukava ku buzima bwabo.
1 Corinthiens 5, verset 1.
On entend
parler constamment de l'inconduite parmi vous, c'est-à-dire de l'immoralité sexuelle, et d'une inconduite telle qu'on ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme, regardez bien ici verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'est pas votre sujet de gloire. Juste le verset 5, s'il te plaît.
Reka somo murongo wa gatanu ngo guha Satani umeze atyo ngo duhe Satani umeze atyo kugira ngo umubiri wiwe uranduke ubugingo bwiwe buze burokoke ku munsi w'umwami Yesu.
Regardez bien ici.
Areka turabe neza.
Il est parlé de la destruction de la chair.
Mais
il est parlé aussi que l'esprit sera sauvé au jour du Seigneur.
Ça,
c'est tout à fait le type de personne qui s'attire un jugement contre lui-même. Le salut, c'est quelque chose dans lequel vous êtes scellé. Maintenant, la qualité de vie que vous allez avoir sur cette terre
et
la récompense que vous allez avoir au ciel dépend de ce que vous aurez fait ou pas dans votre corps. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle vivait délibérément dans le péché et amenait une infection dans l'église. Et
ce
n'était pas le sida. L'infection, c'était quoi?
C'était
que c'était quelqu'un qui fréquentait l'église délibérément dans le péché et que personne ne disait rien, que les responsables qui étaient parfaitement au courant ne disaient strictement rien. Et à ce moment-là, je dirais, les gens pensaient, vous savez, quand le péché est dans l'église, et que c'est ouvert, que tout le monde le sait, les gens disent, c'est pas grave. On dit rien à telle personne, moi je fais ça, mais c'est pas grave. Et tout le monde fait n'importe quoi. Paul dénonçait ça ici. Les Corinthiens avaient beaucoup de problèmes. Il y avait de terribles divisions dans l'église.
Et
c'était des soulards, en tout cas certains d'entre eux. Au niveau sexualité, il y avait des gros problèmes partout dans l'église. Et en plus, ils étaient orgueilleux.
Alors
Paul s'est fâché. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça
veut dire qu'il soit chassé de l'église. Qui n'ait plus de communion directement avec lui. Et Paul dira un peu plus tard, ce n'est pas une communion, c'est-à-dire on ne doit pas rejeter les gens définitivement. Mais on doit attendre qu'ils aient une attitude de repentance si on veut les réintégrer. Alors maintenant, il y a un autre passage aussi qui nous parle de ce genre de choses.
1
Corinthiens 11, un passage qu'on connaît très bien.
Et
bien sûr, le passage de la Sainte Cène.
Et
là, Paul va loin, très loin.
Alors,
il parle de la Sainte Cène. Et donc, je vais lire à partir du verset 23. Car moi, j'ai reçu du Seigneur, 1 Corinthiens 11, 23, ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez du pain et vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Regardez maintenant verset 27 et suivant. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Regardez ce que Paul dit maintenant au verset 30. Il s'adresse à des chrétiens, et dont les Corinthiens, bien sûr. Ça s'adresse à l'Église encore aujourd'hui, mais c'est vrai que, rappelez-vous, l'état lamentable de l'Église de Corinthe. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Waouh, c'était un beau tableau, hein. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Verset 30. Alors là, je vais vous expliquer un principe très important. Ici, on voit que c'est Paul dit qu'il y a des conséquences pour les gens qui vivent délibérément dans le péché et qui ne veulent pas se corriger. Ils ouvrent des portes. Les portes qui peuvent être très dangereuses. Quand quelqu'un vit dans le péché délibérément, à nouveau, il sort de la protection du parapluie de Dieu. Et Paul dit, dans certains cas, il y a beaucoup de malades. La plupart du temps, quand les chrétiens ne guérissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés sur la guérison divine. Soit ils subissent aussi certaines attaques sataniques. Soit ils ne savent pas comment se défendre dans la foi. Mais il y a des gens. Ça arrive. La Bible laisse cette porte ouverte ici. Où des gens tombent malades quand ils sont dans le péché. Et là, vous ne pouvez rien faire au niveau de la prière de la foi. Ça ne marchera pas. La prière de la foi ne fonctionnera pas. Pour quelqu'un qui vit délibérément dans le péché et qui ne veut pas se repentir. Alors, la première étape, c'est quoi? Avant d'en arriver justement à ce qu'il y ait des conséquences. La première chose, c'est qu'il y a un temps où ça n'a pas encore d'effet sur nous. Où la vie dans le péché n'a pas d'effet sur nous. Il y a un temps où Dieu donne des chances à ce que des frères et sœurs viennent et te conseillent. Et où tu peux être restauré. Il y a un temps aussi où des serviteurs de Dieu te diront « Je te sanctionne pour ça ». Puisque tu as fait ça. Et c'est là où on voit le cœur de la personne. Vous savez, souvent les chrétiens, quand on veut les sanctionner, en tant que pasteur, on voit souvent ça. Quelqu'un fait une sérieuse gaffe. On lui dit, écoute, maintenant voilà. Bon, tu as fait ça. Personne ne demande pardon. En tant que serviteur de Dieu, tu pardonnes.
Mais
souvent, tu vas donner une sanction à la personne. La plupart des gens, ils prennent la petite porte. Et ils vont dans une autre église. Vous savez ce que ça produit, ça? Ça déplace le problème. Et déplacer le problème ne guérit pas le problème. Déplacer le problème amplifie le problème. Bon, et puis il y a des gens qui, en changeant d'église, bon, se corrigent. Mais souvent, la plupart du temps, les gens ne se corrigent pas. Et ils retombent dans les mêmes choses.
Grave.
Et ils retombent et ils s'enfoncent et ils s'enfoncent. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui vient sur eux. C'est une porte ouverte. Pour que l'ennemi puisse passer. Rappelez-vous que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Sauf si nous sommes ignorants. Ou si nous vivons délibérément dans le péché. Je vous rappelle ce que la 1 Jean 5 nous dit. Ça, c'est un verset qui est très important. 1 Jean chapitre 5. On parle du péché, mais on pourrait parler de l'irresponsabilité aussi. Je vais faire des enseignements là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent des portes terribles à l'ennemi dans l'irresponsabilité. Jean nous dit, et nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, ne pêche pas. Ça veut dire ne pratique pas, ne vit pas dans des habitudes de péché.
ngo turazi yuko umuntu wese avyawe n'Imana adakora ibyaha ariko umwe yavyagwa n'Imana
mais celui qui est engendré de Dieu c'est-à-dire qui est né de nouveau se garde lui-même
ngo turazi yuko umuntu wese avyawe n'Imana adakora ibyaha ntaba mu ngeso z'ivyaha ariko umwe yavyagwa n'Imana aramuzigama
et le malin ne le touche pas
kandi wa mubi namukorako
donc la façon de te garder toi-même c'est quoi
bavuga ngo aramuzigama bavuga ngo ni arizigama
kwizigama no kugira toi-même c'est d'abord connaître la parole
kwizigama no kugira kumenya ijambo ry'Imana
et vivre dans la sainteté
no kugendera mu kwezwa
si tu connais la parole tu connais ta protection
nimbuzi ijambo ry'Imana uzikurindwa
si tu vis dans la sainteté tu laisses les portes et les fenêtres fermées
nimba ugendera mu kwezwa hari imijyango n'amadirisha uba wugaye
c'est pour ça que souvent Satan essaie de faire des pressions sur notre chair pour que nous mettions dans le péché
je dois Satan imwe namwe aduteza ukwifuza kugira ngo twinjire mu cyaha
parce qu'il sait que c'est là où il a du terrain
kubera ko arazi kwaho ari hadufatira
quelqu'un qui est bien enseigné dans la parole et qui marche dans la sainteté
umuntu yigishwa neza mu ijambo ry'Imana kandi agendera mu kwezwa
c'est quelqu'un qui est puissant
n'umuntu usanga agendera mu bushobozi
quelqu'un qui est intouchable
n'umuntu usanga adakogwa ko buryo bworoshye
maintenant si tu marches dans l'ignorance
ariko umuntu agende mu kutamenya kumbure
ça c'est un autre sujet
yumve cyo n'ikindi cyo
Mais si tu marches délibérément dans le péché, à ce moment-là, l'ennemi peut en profiter. Dieu aussi te sanctionnera. Comment est-ce que Dieu nous sanctionne? Dieu nous sanctionne par rapport au retard qu'il va nous donner, qu'il va mettre dans notre vie par rapport à notre destinée. Quelqu'un qui revient dans le péché, il retarde sa destinée. Il met des années et des années où il reste assis dans un coin sans avancer dans sa destinée. C'est comme ça que Dieu nous sanctionne. Dieu nous sanctionne aussi au travers de serviteurs de Dieu. Quand il te reprend, quand il te corrige, c'est comme ça que Dieu nous sanctionne. Et quand devant tout cela, la personne dit non, 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 je continue délibérément, qu'elle va trop loin, souvent elle va ouvrir des portes. Et là, parfois c'est la mort prématurée, parfois c'est la maladie. Et à ce moment-là, un certain nombre de fois, à ce moment-là, il y aura la prière d'intercession seulement qui pourra éviter cela. Les conséquences pour que cette personne commence à réaliser dans l'état pitoyable dans lequel elle se trouve, s'effondre devant Dieu, lui demande pardon et entre guillemets arracher des tragédies juste au dernier moment. Sinon, la chair sera détruite. L'esprit est sauvé pour le jour du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit.
Et
la personne n'aura pas de récompense, c'est-à-dire sa position dans le royaume futur sera une position la plus basse. Voilà le concept d'intercession. Des chrétiens en faveur de chrétiens. Le Seigneur vous bénisse juste.